Et notre invité ce matin dans le 8h30, Bernard Herbez, bonjour.
Oui, bonjour.
Co-secrétaire départemental pour Europe Écologie Les Verts dans les Hautes-Alpes. Vous êtes en train de battre campagne, comme on dit, pour les présidentielles. Comment ça se déroule, cette campagne pour Europe Écologie Les Verts? Quels sont les échos que vous avez des Hauts-Alpins?
Écoutez, ça se passe pas si mal que ça, puisque depuis quand même déjà pas mal de temps, on est sur les marchés, sur Gap, sur Briançon, et là on est en train de faire un tour sur Vennes et Laragne, et on a, je trouve, un accueil assez intéressant. On a évidemment des gens qui passent sans nous regarder, mais il y en a pas mal qui semblent intéressés par nos propositions.
Et justement, quelles sont les propositions d'Europe Écologie Les Verts pour les territoires ruraux?
Alors, pour les territoires ruraux, là, j'allais dire, on a des propositions très fortes concernant la ruralité, concernant l'agriculture dans les Hautes-Alpes, et en particulier le soutien à l'agriculture bio. On est aussi très fortement motivé pour le développement des énergies renouvelables, puisqu'on a un département particulièrement favorisé par l'ensoleillement et qui est insuffisamment exploité. Et nous, ce qu'on dit, c'est que plutôt que d'utiliser des espaces boisés pour installer des parcs photovoltaïques, il serait quand même beaucoup plus astucieux de généraliser l'installation de panneaux sur les toitures existantes, sur tous les bâtiments qu'on construit actuellement. Et donc, ça fait partie des choses que nous, on pousse assez fortement et qui pourraient retrouver un écho sur le département.
Comment vous réagissez aux propos de Jean-Luc Mélenchon, tenu la semaine dernière, le week-end dernier, lors d'un meeting? Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, qui appelle finalement au vote utile. C'est-à-dire que pour lui, dès le premier tour, il faut voter Jean-Luc Mélenchon. C'est ça, le vote utile, parce que c'est lui qui est en tête dans les sondages et dans les intentions de vote pour la gauche.
Alors écoutez, nous, notre conviction, d'une part, c'est qu'il peut y avoir des surprises. Déjà que les sondages sont une indication à un moment donné et qu'on s'est rendu compte quand même plusieurs fois qu'il y avait des choses qui évoluaient, que les gens ne répondent pas toujours très sincèrement aux questions qui leur sont posées. Cela dit, nous, si on considère que l'important c'est nos convictions, les idées qu'on porte, on appellera forcément, enfin, je veux dire, on arrêterait tout de suite de faire campagne si on devait appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Ça serait pas raisonnable et un peu aberrant.
Aujourd'hui,
la problématique pour nous aujourd'hui, on va pas casser du sucre sur le dos de nos amis de la France Insoumise avec qui on a travaillé sur les départementales, avec qui on a des bonnes relations localement. Mais, quelque part, nos programmes sont voisins mais différents.
C'est-à-dire différent à quel niveau, j'allais dire, de différence? Parce que, et en effet, vous le dites, hein, au niveau local, on est amis avec
la France
Insoumise.
Alors, au niveau local, c'est vrai qu'on ne va pas avoir des différences flagrantes.
Mais au niveau national, par contre, l'union ne peut pas se faire.
Au niveau national, si vous voulez, on est confronté à quelque chose d'un petit peu curieux. C'est qu'il y a plus d'un an, notre candidat a tendu la main aux différents partenaires potentiels dits de gauche, puisque maintenant, ça veut dire trop à gauche, dit de gauche, dont Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon, sa seule réponse, c'est « venez derrière moi, moi je serai candidat ». Donc à partir de là, ça a limité fortement les possibilités de se rassembler. Et sinon, fondamentalement, les désaccords qu'on peut avoir avec Jean-Luc Mélenchon, mais le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas non plus toute la France insoumise. On se rend compte qu'il y a quand même des gens qui sont un peu perplexes par rapport à son positionnement. Anti-impérialiste, alors que pour nous, il y a des impérialismes, l'impérialisme, on peut dire occidental, mais l'impérialisme russe ou l'impérialisme chinois, basé sur du productivisme. Nous, c'est ce qu'on combat, le productivisme, de toute façon, qu'il soit d'un côté de la planète ou un autre. Puisque c'est ce productivisme qui est en train de bousiller complètement le climat et on va en subir les conséquences. Et ça sera irréversible si vraiment on ne réagit pas rapidement.
Alors, parlons un petit peu du programme d'Europe Écologie Les Verts et surtout de ce point qui est en particulier discuté en ce moment à l'heure du conflit russo-ukrainien. C'est la fameuse indépendance énergétique et la sortie du nucléaire. Alors, certains candidats, à l'image d'Emmanuel Macron, veulent plutôt qu'on aille vers plus de nucléaire avec des réacteurs de seconde génération. Par contre, pour Yannick Jadot, c'est la sortie progressive du nucléaire. Mais comment on peut à la fois assurer l'indépendance énergétique, la sortie du nucléaire, les énergies propres, comment on peut faire tout ça sans que ça coûte non plus trop cher?
Alors écoutez, là-dessus, il y a effectivement un débat. Il faut quand même savoir que RTE, dans ses différents scénarios, a évoqué un scénario avec une sortie du nucléaire et une majorité d'une production à partir des énergies renouvelables à 100%. Et ça mérite d'être pris en compte dans la mesure où ça demande effectivement de complètement réorienter nos politiques d'investissement en matière énergétique. Mais à terme, c'est quelque chose qui coûtera beaucoup moins cher que le nucléaire. Et ça, il y a des calculs très clairs qui montrent que c'est pas une utopie.
Yannick Jadot qui prône cette sortie du nucléaire, juste au niveau des délais, c'est sur 15 ou 20 ans, et il souhaite aussi renationaliser EDF. Il y a un autre point dans son programme qui concerne aussi directement les Alpes du Sud, c'est la zéro artificialisation nette des sols. C'est difficilement entendable quand même, par exemple, du côté des Alpes du Sud. Comment on arrive à avoir des projets d'aménagement sans artificialiser les sols?
Alors,
ça peut freiner quand même le développement.
Artificialisation nette, ça veut dire qu'il y a des surfaces qui peuvent être rendues à la nature et puis d'autres qui vont être utilisées. Cela dit, on a une grosse marge de manœuvre si on y réfléchit en termes de réutilisation à la fois de friches industrielles, de redensification. Alors c'est vrai que c'est moins sensible dans nos départements, quoique. Dès qu'on fait des lotissements, on consomme énormément de surfaces qui pourraient être dédiées à d'autres choses. Et en particulier, un élément que nous défendons aussi fortement, c'est l'idée de l'autonomie alimentaire et que l'agriculture doit produire pour nourrir les gens et que les surfaces dédiées à l'agriculture ne doivent pas diminuer dans la mesure où on en aura de plus en plus besoin.
Revenons sur une actualité qui touche les Alpes du Sud et les Hautes-Alpes. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était à la mi-mars, le 15 mars dernier. Vous avez demandé à la préfète des Hautes-Alpes d'anticiper une catastrophe nucléaire suite à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, notamment en distribuant des pastilles d'iode. Est-ce que vous avez une réponse des services de l'État?
Pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est resté. On n'a pas de réponse.
Pas de réponse.
Non, il n'y a pour l'instant pas eu de réponse.
Et vous avez affiché en février un soutien aux cheminots de la ligne des Alpes, le ferroviaire justement. Ça fait partie du programme de Yannick Jadot qui veut réactiver.
Oui.
Alors le train du quotidien et réactiver aussi 15 lignes de nuit. Le train du quotidien dans les Hautes-Alpes, parce que c'est vraiment tenable. On a du mal à s'imaginer, par exemple, quelqu'un qui travaillerait du côté de Briançon ou de Gap et qui vivrait dans l'une des communes autour, prendre le train quotidiennement sans essuyer un retard, sans essuyer une annulation.
Écoutez, jusqu'à maintenant, on avait les trains dits du quotidien. Le problème qui se pose, c'est déjà qu'ils sont pas assez nombreux. Le cadencement est insuffisant. Et ensuite, on voit des choses un peu aberrantes, à savoir que pratiquement aux mêmes horaires, on a des cars qui doublent les circulations de trains. Donc là, la région vient de publier son étude tarifaire qui n'est pas encore mise en œuvre, mais qui est soumise à discussion. Et on se rend compte qu'il reste un certain nombre d'aberrations à ce niveau-là. Donc, rationaliser l'offre de déplacement. Et puis, il y a quand même aujourd'hui quand même un élément important, c'est que les voies, il y a eu une régénération qui a été entreprise.
Il y a une régénération des lignes, mais que peut faire un président? Alors que vous l'avez dit, c'est la région qui gère.
Oui.
Alors, que peut faire un président de la République qui ne peut pas non plus forcer une région?
Alors, sans forcer les régions, on peut à la fois les inciter et puis les accompagner. Je pense que l'État, à sa part, par exemple, dans tous les travaux de régénération d'infrastructures, l'État met la main à la poche, si on peut dire. C'est pas que les régions qui sont sollicitées. Donc, il y a une collaboration à avoir avec les régions, bien sûr, des partenariats.
Épauler les régions pour arriver vers ce train du quotidien. Oui. Merci beaucoup Bernard Derbez d'avoir été avec nous ce matin dans l'8:30. Je rappelle que vous êtes le co-secrétaire départemental d'Europe Écologie Les Verts et justement vous êtes en train de faire campagne pour le programme porté par Yannick Jadot pour les présidentielles. Merci à vous.
Merci à vous aussi.